Je m'appelle Pauline et je vais vous parler du harcèlement que mon fils Romain, aujourd'hui âgé de 15 ans, a subi depuis la maternelle. Parce que quand je lui ai demandé, tu te rappelles quand est-ce que ça a commencé? Il m'a dit, tu te rappelles, à la maternelle, j'avais un t-shirt rose et on m'a dit, bah t'es une fille, t'es pas un garçon. Et ça a continué comme ça, donc en CM1, un jour il est rentré, il m'a dit « Maman, qu'est-ce que ça veut dire PD ?» Donc comme il était presque harcelé quasi quotidiennement, on a décidé de le changer d'école et de le mettre dans une école qui soit plus petite et qu'il se sente peut-être plus entouré et en sécurité. Mais ça n'a pas été le cas, ça a continué. Même quand il avait 7 ans, il nous a demandé de faire du karaté, ce qui n'était pas du tout son tempérament. Depuis, ça a continué, donc ça a été vraiment du quotidien. La chance que nous on a avec Romain, c'est que il nous a parlé et il nous parle encore. Et puis moi, je le fais parler aussi parce que quand je vois que ça va pas, j'essaie de lui parler et il se confie à moi. On a été toujours avec lui, on l'a toujours accompagné, on n'a jamais jugé. Donc, et je peux dire que depuis vraiment la maternelle, le corps enseignant était avec nous.
Rappelez-vous, il y a 3 ans, nous parlions déjà de ce fléau qu'est le harcèlement, que 10% des collégiens subissent un harcèlement, dont 6% un sévère à très sévère, que 7% des collégiens reconnaissent avoir vécu des violences répétées via les nouvelles technologies et un collégien sur 5 déclare avoir subi une atteinte via les réseaux sociaux. Malheureusement, le sujet reste toujours et encore d'actualité, les événements tragiques des derniers mois ont fait bouger nos institutions et une nouvelle prise en charge se profile. Nous allons aujourd'hui écouter Bruno Humbeck, psychopédagogue, chercheur en sociopédagogie familiale et scolaire, auteur de nombreux ouvrages qui viennent en aide aux parents, comme son dernier livre « Le harcèlement scolaire, guide pour les parents » chez Odile Jacob. Nous allons lui demander comment le déceler, aider son enfant, dialoguer avec l'école et tenter de comprendre cette mécanique destructrice du harcelé-harceleur. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui pour parents cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère. Bonjour Bruno Humbeck.
Bonjour.
Déjà, le harcèlement, est-ce qu'il a toujours existé?
Alors, en quelques mots, l'agressivité, je vais dire territoriale, l'agressivité hiérarchique entre enfants a toujours existé. Hein. Même si vous avez 3 enfants chez vous, ah ben, il y aura des rivalités qui vont se manifester. Bah, c'est cette forme d'agressivité hiérarchique parce que chaque enfant visera inévitablement à être le préféré à l'intérieur du groupe. Et donc, ça crée effectivement des mécanismes d'agressivité qui, lorsqu'on ne les contrôle pas dans un groupe humain, peuvent dégénérer en harcèlement.
On en parle énormément, bien évidemment, c'est pour ça qu'on fait ce sujet aujourd'hui. On dit que le harcèlement a évolué, surtout si on pense à l'arrivée des réseaux sociaux qui fait que le phénomène ne peut ne jamais s'arrêter. Aujourd'hui, vous le définiriez comment, le harcèlement?
Le harcèlement, c'est une prise de pouvoir d'un certain nombre d'élèves ou d'un groupe d'élèves sur un élève cible qui, lui, effectivement, va être très vite réduit à un sentiment d'impuissance. Le principe même qui crée la souffrance liée au harcèlement, c'est l'impuissance à en sortir. Pour vous donner un petit exemple, on va imaginer que je vous bouscule comme ça de manière régulière.
Oui.
Et donc, c'est répétitif, c'est intentionnel de ma part, et c'est relativement nuisible. Alors, avez-vous l'impression que je suis un harceleur? Puisque si on prend la définition juridique, peut-être que vous allez me dire oui. Je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que je suis un harceleur en agissant comme ça?
Non.
Non, je ne suis pas un harceleur, effectivement, je suis juste un emmerdeur. Maintenant, chaque fois que je vous bouscule, je regarde quelqu'un d'autre et je le prends en témoin du statut, en fait, de dominant que j'ai par rapport à vous pour m'autoriser ce type de comportement. Là, je deviens un harceleur parce que je mets en scène mon statut de dominant et je fiche les rôles dominant, dominé et ceux qu'on appelle, nous, les spectateurs, hein, c'est-à-dire ceux qui agissent en regardant.
On en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que le harcèlement proportionnellement, enfin dans les chiffres, a augmenté ou c'est juste que les langues se délient et qu'on en parle plus aujourd'hui?
Alors, c'est pas seulement parce que les langues se délient, c'est parce que la sensibilité se manifeste. Si vous lisez un livre comme La guerre des boutons, La guerre des boutons n'est pas un livre qui a été réalisé pour dénoncer le harcèlement. Regardez les scènes de La guerre des boutons, vous avez 17 scènes qui sont absolument intolérables aux yeux d'un parent actuel. J'en prendrai une, hein, une de ces scènes. Imaginez, on met un enfant tout nu sur une planche et puis toute la classe crache sur lui, l'enduit de matière fécale et lui met le slip dans la bouche. C'est évidemment insoutenable pour n'importe quel parent. Or, Pergo, qui a mis en scène la guerre des boutons, n'a pas fait ça pour dénoncer quoi que ce soit, c'était pour montrer la jubilation d'enfants qui s'amusent en se bagarrant les uns avec les autres. Et si vous regardez la réaction des adultes à l'époque, les parents, effectivement, râlent un peu parce qu'ils vont devoir payer des boutons. C'est absolument uniquement à ça que ça se réduit leur désaccord. Et l'école s'en sort très bien avec un directeur d'école qui, à la fin du livre, fait un grand discours pour dire « Arrêtez de haïr les enfants du village voisin. Gardez votre haine pour les Allemands parce qu'on doit préparer une guerre. » Et donc, on était dans un schéma dans lequel, effectivement, on a l'impression que il n'y avait pas de souffrance. Et effectivement, quand vous étiez humilié par les enfants du village voisin, vous étiez héroïsé dans votre groupe d'appartenance. Actuellement, c'est tout à fait l'inverse. Vous êtes humilié sur la scène réelle et vous êtes anéanti sur les réseaux sociaux juste après, et vous n'avez pas d'espace de reconstruction de vous-même. Oui. Et donc, il y a une sensibilité beaucoup plus grande de tout l'environnement, les enseignants, les enfants et les parents, au phénomène de la souffrance psychologique associée aux mécanismes, par exemple, d'humiliation.
On n'a rien vu venir. On entend souvent cette phrase de la part des parents. Qu'est-ce qui fait pour vous que les parents soient finalement les derniers avertis, et pourquoi un enfant harcelé ne s'exprime pas donc ?
Alors, il ne révèle pas le harcèlement qu'il subit, tout simplement parce que il fait preuve de ce qu'on appelle une délicatesse paradoxale. C'est-à-dire qu'en gros, il veut préserver ses parents de la peine que ceux-ci pourraient avoir s'il parlait de ce harcèlement. D'ailleurs, tous les parents, généralement, la première question qu'on pose à son enfant quand il revient de l'école, c'est « ça a été ?» Oui. Et on attend évidemment un « oui ». Et l'enfant perçoit très tôt dans son développement que tout ce qu'il éloigne de ce « oui », ça va créer de la peine aux parents. Mmh. Et donc, il aura non seulement ses difficultés à supporter, mais en plus la peine qu'il aura constituée à son parent en lui racontant ce qu'il a vécu. Moi, j'avais en consultation un petit garçon qui montrait très bien le phénomène. Il me disait « chaque fois que maman me demande comment ça va, je lui réponds comme d'hab. » Il vivait un harcèlement hors norme. Et en fait, il voulait dire « c'est l'enfer comme d'hab. »
Ah, oui.
Il dit comme ça « je ne mens pas à maman ». Et en même temps, je l'attriste pas en lui révélant ce que je suis en train de vivre. Il faut avoir lu les courriers qui ont été laissés par les enfants, les adolescents, les adolescentes qui se sont donné la mort suite à un phénomène de harcèlement, suite à un problème de harcèlement. Ils sont toujours libellés de la même façon. Papa et maman, je suis vraiment désolé, je sais que je vais vous désespérer complètement, mais j'ai plus la force de vivre. Et ils rajoutent derrière, mais je ne vous ai pas raconté ce que j'avais vécu parce que j'avais peur de faire de la peine. Ils sont conscients qu'ils vont désespérer leurs parents, mais paradoxalement, ils ont voulu les préserver de la peine qu'ils auraient eue à entendre toutes les difficultés qui auraient été vécues. C'est pour ça que c'est vraiment important au niveau des parents de toujours, toujours, toujours bien exprimer à l'enfant, à l'adolescent, qu'on est en mesure de tout entendre. On ne va pas s'effondrer en tant que parent, on ne va pas dramatiser la situation et on ne va jamais la minimiser. Hein. Ce sont les deux torts qu'ont parfois les parents lorsqu'ils entendent un enfant parler de ce qu'il vit de difficile au sein de l'école.
Ça fait flipper, hein, franchement, en tant que parent, parce qu'on a forcément peur de passer à côté de quelque chose. Quels sont les signes, d'après vous, qui doivent alerter vraiment les parents et les aider à comprendre ce qui se cache derrière tous ces non-dits ?
J'ai toujours beaucoup, beaucoup de réserves à parler de signes parce que, notamment dans le cyberharcèlement, c'est un tueur aveugle. Il n'y a pas de signes avant-coureurs, il n'y a même pas de micro-signes. Hein. Je sais qu'en France, vous êtes très sensible à ce qu'on appelle des micro-signes.
Ouais.
Parfois, certains vont évoquer des maux de ventre, etc. Un mal de ventre, c'est d'abord le signe d'une gastro-entérite, hein, plus probablement que d'un harcèlement. Et donc, il faut vraiment se méfier d'une recherche de signes objectifs. C'est pour ça que ce qui est important, c'est que l'enfant parle, qu'il ose parler, et il ne parlera qu'à des adultes qui ne vont pas s'effondrer s'ils entendent les choses. Parce qu'on sait quoi faire. C'est pour ça qu'il y a une urgence d'équiper les écoles. Mmh. On essaye de le faire le plus possible en Fédération Union-Bruxelles pour que les enfants sachent qu'ils ont affaire à des adultes enseignants qui savent comment réagir quand il y a une situation de harcèlement, et parents qui savent aussi comment réagir par rapport à l'école, lorsqu'il y a une situation de difficulté émotionnelle au sein de l'école, vécue par leur enfant. Parce que le vrai drame, c'est l'enfant qui n'ose pas parler, oui, et le parent qui s'oblige alors à voir des signaux objectifs. Et quand j'entends des micro-signaux, vous savez, notamment lorsqu'il y a des situations de suicide, il faut savoir que la plupart des parents n'ont rien vu venir. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur dans de très nombreuses situations. On ne peut pas demander à l'école de voir des signaux qui ont échappé aux parents. Parce que, notamment dans le cyberharcèlement, moi j'ai un poster dans mon bureau avec toutes les jeunes filles, les jeunes garçons qui se sont donné la mort en Fédération Union-Bruxelles suite à des agressions numériques. Il y a une caractéristique commune à tous ces visages, c'est que ce sont de très belles jeunes filles, de très beaux jeunes garçons. Ce sont des enfants, des adolescents, des adolescentes qui ont suscité l'envie chez les autres. Oui. Ils ont commis une imprudence numérique. Et puis, vous savez que l'envie, effectivement, par rapport à une meute, c'est très difficile à contrôler. La meute s'est jetée sur eux pour les déchiqueter. Et ils n'étaient pas du tout préparés à vivre ça. Et ben, ça se produit parfois avec une seule agression numérique, mais qui a une force d'anéantissement hors norme. Et l'adolescent se trouve complètement perdu. Et les parents n'ont rien vu venir. C'était un éclair dans un ciel bleu. C'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas mettre le focus sur des signaux de souffrance qui ne sont pas caractéristiques du harcèlement ou du cyberharcèlement, puisque, par exemple, ils sont parfois emmêlés dans la crise de l'adolescence, hein, tout à fait habituel, dans les difficultés, le mal-être. Chez l'enfant, ben, là aussi, il y a des contextes, je vais dire, de souffrance qui laissent penser que l'enfant est en difficulté. Mais il faut se montrer prêt à entendre. C'est-à-dire, tu peux tout me dire, ça ne va pas m'effondrer, et surtout, on sait comment on pourra réagir si tu es confronté à quelque chose de ce type-là, parce que c'est une souffrance qui se révèle, mais qui ne se voit pas. Donc, il faut vraiment mettre en place des espaces où à l'école, comme dans la famille, ben, les enfants osent parler, parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des adultes qu'on appelle les adultes contenants. Donc, ils sauront quoi faire lorsqu'ils auront entendu la souffrance émotionnelle de l'enfant.
On va en parler justement de l'école juste après, mais avant tout, moi je sais en tant que maman, on en parle à la maison. C'est vrai que les enfants, on leur en parle beaucoup à l'école du harcèlement, ils travaillent beaucoup dessus. Après, les plus petits, j'ai l'impression, ont du mal aussi à voir où est la frontière entre du vrai harcèlement et du « il m'embête » finalement, et que nous, parents, derrière, bah, on a du mal parfois aussi à faire le tri.
Mais vous l'exprimez très très bien, hein, c'est-à-dire ce que vous appelez du vrai harcèlement. Personnellement, moi, j'essaie d'éviter d'utiliser le mot harcèlement. Et en France, vous avez vraiment le problème. On en a fait une priorité, je vais dire, en termes politiques, à tout point de vue, avec l'impression parfois qu'ont les enfants, que les adultes se chamaillent à leur sujet pour dire c'est du harcèlement ou c'est pas du harcèlement. Ouais. En réalité, il n'y a pas de frontière. Il y a juste de la souffrance émotionnelle. Si vous me dites que vous êtes triste, que vous avez peur, je ne vais pas passer mon temps à essayer de vérifier si la situation que vous vivez correspond aux critères qui définiraient, et en fait, il n'y en a pas, la situation de harcèlement. Parce que si vous êtes dans une situation émotionnelle difficile, que vous êtes dans l'impuissance à réagir par vos propres moyens, et ça, il faut vraiment que les parents l'entendent, ne jamais demander à son enfant de réagir par ses propres moyens. Il y a un phénomène tout à fait caractéristique qui veut que votre cerveau, bah, c'est votre principal allié. Ça veut dire que si vous vous sentez menacé par des gens qui sont plus forts que vous, plus nombreux que vous, votre cerveau va refuser d'aller chercher de quoi s'opposer. Et vous n'aurez pas ce qu'on appelle l'esprit de répartie. Vous allez me dire 3 heures, 3 mois, 3 semaines après, j'aurais dû lui dire ça. Et vous voyez ça, vous avez baissé la tête. Ah ben, c'est pas parce que vous êtes moins vif intellectuellement, c'est juste parce que votre cerveau a refusé d'aller chercher de quoi s'opposer. Donc c'est vraiment important que les parents entendent. Il n'est pas question d'essayer de te demander de réagir par toi-même. Il y a une souffrance émotionnelle. Et moi, je préfère que l'enfant soit petit ou qu'il soit plus grand, parler de souffrance émotionnelle que de parler du harcèlement. Ouais. Parce que ce qui est épouvantable pour un enfant, et pour un adulte aussi, d'ailleurs, quand il est confronté à l'école, c'est d'entendre « c'est pas vraiment du harcèlement ». Mais si je souffre, qu'on appelle ça du harcèlement ou autre chose, ça m'est complètement égal. Je veux juste que ça s'arrête. Et comme je suis mis dans une situation d'impuissance à réagir, bah, il faut éviter, à un moment donné, de donner l'impression qu'on va confronter ce qu'on dit à un diagnostic. Une émotion, ça se dit, ça ne se contredit pas. Si vous me dites que vous êtes triste, que vous êtes en colère, que vous avez peur, je n'ai pas à vous dire que vous n'avez pas à l'être. Et je n'ai même pas à dire que vous n'avez pas à l'être autant que vous l'êtes. On ne conteste une émotion ni dans sa légitimité, ni dans son intensité. Et les enfants ont besoin d'entendre ça. Parce que sinon, bah, cette idée, et ça c'est vrai que pour le moment, il y a un vrai souci chez vous, parce que comme bah, c'est quelque chose qui est très sensible, en Belgique, on ne parle pas de projet de prévention du harcèlement, mais d'amélioration du climat scolaire. D'accord. Et on évite le plus possible d'utiliser le mot harcèlement que certains parents utilisent comme un bélier pour ouvrir les portes de l'école. Et l'école alors réagit en disant « Ah ben non, on va faire un diagnostic qui va essayer d'évoquer que c'est tout à fait autre chose. » C'est vraiment important, et c'est aussi important de ne pas essayer d'objectiver. Si vous demandez à votre enfant ou à votre adolescent « Dis-moi objectivement ce qu'ils te font, les personnes qui te font peur, les personnes qui t'agressent. » Vous allez constater aussi quelque chose de terriblement présent dans le harcèlement, c'est qu'on a généralement plus peur de ce qui pourrait nous arriver que de ce qui nous arrive réellement. Si quelqu'un vous terrorise parce qu'il vous dit « tu vas voir, toi, un de ces quatre, je vais te démolir » et on ne va jamais te lâcher, vous aurez peur des menaces qu'on fait. Ouais. Même si, objectivement, je ne fais rien, si ces menaces sont crédibles, l'enfant, l'adolescent va vivre dans la terreur. Et donc, c'est vraiment important de ne pas demander à l'enfant d'énoncer des faits objectifs par rapport à une école ou une famille avec une école qui va essayer de faire une enquête. Ça, il faut sortir de ce registre-là parce qu'il est terriblement contre-productif. La souffrance émotionnelle, on n'enquête pas par rapport à elle. Et si un enfant a la boule au ventre parce qu'il va à l'école, parce qu'il a peur de ce qu'on pourrait lui faire, parce que certains le mettent dans une situation finalement de terreur pour installer leur statut de dominant, et qu'ils vont à un moment donné lui donner l'impression que tout est possible, cet enfant est en souffrance majeure et il faut se donner les moyens de réagir à cette souffrance majeure.
Qu'est-ce que vous répondez aux parents justement qui sont archi informés aujourd'hui sur le sujet, qui s'inquiètent pour leurs enfants, notamment pour leurs enfants, on parle beaucoup des enfants hypersensibles aujourd'hui, et ils ont peur qu'ils soient une proie plus facile. Qu'est-ce que vous répondez à ces parents qui pensent que finalement il y aurait peut-être un profil d'enfant harcelé ?
Alors il n'y a pas de profil, et alors surtout vous venez d'utiliser un mot terrifiant, le mot hypersensible. Aucun enfant, aucun adulte n'est hypersensible, c'est juste le monde qui génère trop d'émotions. Ne vous laissez pas traiter comme un malade quand vous avez juste une sensibilité qui vous fait réagir normalement à un excès de stimulation. Quand on m'amène en consultation un enfant en me disant « il est hypersensible, faites en sorte qu'il ne le soit plus pour qu'il ne soit plus harcelé », je suis toujours obligé de dire « on va d'abord faire en sorte qu'il ne soit plus harcelé ». Après, on s'occupera de sa sensibilité, qui est probablement une sensibilité tout à fait normale. Il faut beaucoup plus s'inquiéter d'avoir un enfant hyposensible, c'est-à-dire insensible aux émotions des autres, qu'avoir un enfant normalement sensible, mais qui est soumis à un excès d'émotions. Et il faut à ce moment-là agir sur l'excès d'émotions auquel il est subi. Mais traiter l'enfant d'hypersensible, c'est lui donner l'impression que c'est lui le problème. Or, dans notre monde, on traite beaucoup de gens d'hypersensibles alors que le monde génère énormément d'émotions. Et ce n'est pas les personnes qui sont malades, c'est le monde qui, pour le moment, est malade.
C'est vrai. Quel rôle doit jouer l'école dans cette équation ? Est-ce qu'il est central ? Est-ce que vous pensez que, on en parle énormément aujourd'hui, que les cours d'empathie comme au Danemark ou les salles de confiance sont des outils à mettre en place impérativement au sein des établissements ?
Alors, des outils à mettre en place, certainement, mais ne pas présenter les cours d'empathie comme étant une solution miracle qui ferait, par exemple, vous savez, quand on dit le Danemark n'a plus de harcèlement parce qu'ils ont mis des cours d'empathie, ça fait rire les Danois, parce qu'eux-mêmes disent évidemment que ça n'a pas réglé le problème du harcèlement et encore moins du cyberharcèlement. Les cours d'empathie, ça doit faire partie, je vais dire, du socle commun de tous les élèves. C'est une intelligence qui est devenue indispensable à la fois pour réussir sa vie personnelle, la vie couple qu'on va mettre en place, sa vie familiale et sa vie professionnelle, parce qu'il va falloir s'harmoniser avec les gens avec qui on va travailler. Et l'intelligence émotionnelle est devenue vraiment un socle. Ce qui fait que si vous êtes le parent d'un enfant harceleur, il faut vous inquiéter davantage que si vous êtes le parent d'un enfant harcelé. Parce que le parent de l'enfant harceleur, il est probablement le parent d'un enfant dont l'intelligence émotionnelle a été complètement gelée, parce que ses neurones miroirs se sont figés, pour la bonne et simple raison que si vous voulez casser quelqu'un, le massacrer par l'humour, par la moquerie, le démolir par des sarcasmes, vous devez geler vos neurones miroirs. Donc, généralement, les enfants harceleurs ont tendance à geler ces neurones miroirs. Et pour eux aussi, les cours d'empathie vont être terriblement utiles. Et donc, les cours d'empathie, c'est utile pour tout le monde, pour les enfants qui sont victimes, qui effectivement, eux aussi, vont voir que dans la classe, à une condition, c'est qu'on ne se limite pas à créer des cours d'empathie de manière théorique, mais qu'on active l'empathie au sein de la classe. Ce qui est important, c'est des techniques. En Fédération Bruxelles, on a des espaces de parole régulés qui le font très très bien, qui vont, à partir de l'expression de l'émotion, susciter la compassion. La compassion qui va se manifester dès qu'un enfant sera autorisé à dire son émotion et à l'exprimer de manière complète sans être interrompu. Si je vous explique pourquoi je suis triste et que vous me laissez expliquer sans m'interrompre avec un bâton de parole les raisons, les motifs de ma tristesse, vous allez vite voir autour dans le groupe que l'émotion, c'est très contagieux et que vous aurez des personnes qui vont manifester des signaux de compassion. Vous savez, à l'intérieur d'une classe, c'est pas la totalité des enfants qui agressent un élève, oui. Même si celui qui est victime a l'impression que c'est toute la classe. C'est un dominant, une petite cour, donc ils sont un petit groupe, et qui vont manifester ces mécanismes, effectivement, de compassion, parce que les cours d'empathie, je le répète, n'ont de sens que s'il y a des techniques associées qui permettent d'activer quelque chose. Si on se contente de stimuler l'empathie, et si on présente ça surtout comme une solution en termes de harcèlement, vous imaginez ce qui se passe dans la tête d'un adolescent qui est victime de harcèlement, et ce qu'il entend, ben les adultes ont trouvé une solution, ils vont mettre des cours d'empathie en maternelle. Le grand écart entre la solution proposée et la souffrance que vous évoquez, ben fait que les adolescents qui entendent ça, ils sont complètement désespérés.
Alors quels autres outils vous préconisez? Est-ce qu'il y a des choses différentes en Belgique qu'en France?
Alors, il y a des choses, il y a les espaces de parole régulés, hein, donc qui sont des stimulateurs de compassion. Et il y a aussi, effectivement, parce que c'est important au sein de l'école de faire société. Ça veut dire qu'il y a des lois dans notre pays. Chez vous, comme chez nous, ce sont à peu près les mêmes. Insultes racistes, sexistes, homophobes, c'est interdit. Agresser physiquement quelqu'un, c'est interdit. Utiliser les réseaux sociaux de manière asociale, dans les écoles, ça doit être interdit. C'est ce qu'on appelle les conseils d'éducation qui permettent simplement de poser cette interdiction. Un des gros points faibles de ce qui était proposé chez vous en France, c'est qu'on a externalisé la justice avec des mesures, je me permets de le dire, mais complètement stupides, qui montrent juste une chose, c'est qu'on ne comprend pas ce phénomène en France, notamment celui du cyberharcèlement. Quand on propose comme sanction de priver du portable, oui. De le confisquer, on sait tous que c'est un phénomène de meute, mais vous allez confisquer les portables de toute votre classe, hein, puisqu'ils auront partagé, ils auront liké, ils auront mis des commentaires. Il n'y a pas le méchant agresseur et le gentil agressé. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. C'est un phénomène de groupe qui suppose que toute la meute se met en mouvement. Et donc, c'est important d'avoir des solutions qui soient opératoires. Et quand on vous dit, on va confisquer le portable, d'une part, ceux qui en ont la possibilité très rapidement vont en prendre un autre. Et en plus, vous n'arriverez jamais à isoler un seul coupable dans l'immense majorité des cas. Et donc, c'est pas pour ça qu'il faut pas sanctionner. En Fédération de Bruxelles, on peut dire, à un moment donné, dans les écoles qui sont équipées, il est interdit d'utiliser les réseaux sociaux de manière asociale. Ça se passe devant des conseils d'éducation où l'élève qui a agressé un autre est invité à s'expliquer. Alors, faut savoir aussi que les enquêtes en matière de cyberharcèlement, elles sont impossibles puisque c'est généralement sur des contenus volatiles, fulgurants, et que l'élève incriminé, généralement, il efface tout. Ouais. Donc, vous savez plus faire de preuves. Mm-hmm. On dit très clairement aux écoles, vous n'essayez pas de faire la preuve, vous signalez simplement à l'élève, voilà, on ne sait pas si tu as cyberagressé, on ne sait pas si tu l'as fait ou si tu ne l'as pas fait, on ne va pas chercher à le savoir. Mais on te dit à partir d'aujourd'hui, si on a une trace de cyberagression de ta part, voilà la sanction à laquelle tu t'exposes, c'est une sanction probatoire, et on fixe un délai probatoire qui fait que l'élève sera contrôlé sur ce plan-là, et on lui signale, à partir d'aujourd'hui, eh bien, il y aura des copies d'écran. Ça veut dire que, on aura une trace de tes agressions et voilà la sanction à laquelle tu t'exposes. Et on a mis en place une application que la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de lancer, qui s'appelle le CyberAide, qui permet simplement d'appuyer sur un petit bouton. En gros, vous avez un petit bouton sur le côté droit de votre écran. Oui. Et lorsque vous vivez une agression numérique, vous appuyez sur ce petit bouton. Aussitôt, il y a un tutoriel qui se met en place qui fait des copies d'écran. Deuxième petit bouton apparaît. Et là, vous appuyez, tu estimes que tu es cyberagressé, appuie sur ce bouton. Aussitôt, les copies d'écran sont envoyées à l'école. Je peux vous assurer que ça contrôle complètement le phénomène de cyberharcèlement.
Ça existe depuis quand, cette application, finalement?
Ça s'appelle le CyberAide. Ça s'appelait avant le CyberHelp. Et ça a été traduit en français sous l'appellation CyberAide. Ça marche très, très bien. L'application vient d'être lancée en Fédération Wallonie-Bruxelles. On y a travaillé au niveau de l'université à laquelle je suis attaché depuis plusieurs années pour que le système numérique fonctionne de manière optimale. On a donc équipé un certain nombre d'écoles. Et on constate que quand on met ça en place, on contrôle complètement le phénomène.
Est-ce que l'enfant doit se sentir moins seul aussi derrière son écran?
Ah, mais bien sûr, et puis c'est surtout associé aux caractéristiques particulières du cyberharcèlement qui se manifeste, on appelle ça le flaming, par sa fulgurance. Ça vient à 2h du matin, vous êtes tout seul de votre écran. Il y a une photo de vous qui a été diffusée sans votre consentement, qui vous montre effectivement dans une position que vous ne souhaitez pas voir partagée par d'autres. Vous êtes complètement anéanti. Et donc forcément, vous avez besoin d'un message tout de suite qui vous rassure sur le fait que le phénomène va être contrôlé. Et là, vous avez cette réponse systématique. Alors, ça associe aussi les services juridiques. C'est-à-dire qu'en gros, On le sait, imaginez un adolescent, une adolescente qui voit circuler autour de lui des photos de lui-même sans vêtements, dénudées, ou des photos à caractère érotique, plus que pornographique, parce qu'il faut éviter aussi de parler de revenge porn, ça fait peur aux adolescents. Généralement, ces contenus sont des contenus intimes. Donc nous, on parle de divulgation de l'intime, jamais de revenge porn, parce que c'est pas toujours un cadre revanchard, et c'est pas toujours de la pornographie. Et si vous utilisez un mauvais mot, ben vous allez créer les conditions du silence. Et donc, on est dans quelque chose d'autre, qui est la divulgation de l'intime, mais la première chose que vous craignez quand vous avez des photos comme celles-là qui sont diffusées, c'est que vos parents tombent sur ces photos. Et donc, si on ne permet pas aux adolescents d'avoir la certitude, s'ils déclenchent le cyberhelp, que les photos ne seront pas mises à disposition des parents, ben évidemment, il faut nécessairement cet élément-là pour qu'ils osent appuyer dessus. Et après, une école ne peut pas gérer seule la situation sans prévenir les parents. Donc, l'école prévient les parents sont invités à venir chercher une solution avec l'école. Trois solutions sont proposées. La première solution, solution pédagogique, celle dont je viens de parler, c'est-à-dire mettre en place une sanction probatoire qui va contrôler tout usage asocial de ces photos. Celui qui partage, celui qui like, etc., s'expose à une sanction. Et la deuxième option, une option juridique et judiciaire, on propose aux parents d'aller porter plainte et on ne leur donne pas les photos, on les diffuse directement au service de police. Parce que le cyberhelp a été mis en place par quelqu'un qui en Belgique s'appelle Olivier Bogart, qui est responsable de la Cybercrime Unit. Donc le système juridique est aussi impliqué. Et ça fonctionne bien parce que si vous allez porter plainte à la police, et c'est vrai aussi en France, ils vont vous demander une trace. Donc il faut aussi des copies d'écran. Et là, on est dans la induction positive d'une véritable plainte. Et la troisième option, c'est celle qui marche le mieux, c'est la réponse pédagogique associée à la réponse juridique. Le monde juridique prend nécessairement beaucoup de temps pour faire ses enquêtes, c'est normal. Il faut donc une réponse pédagogique qui a un effet immédiat, qui contrôle le phénomène, et puis on laisse après le temps à la justice de faire sereinement son travail. Et en France, on a parfois l'impression que c'est l'école ou la justice, comme si on était dans la plainte ou dans la réponse institutionnelle de l'école. Il faut associer les deux pour que ce soit efficace.
Qu'est-ce que vous pensez du fait que là, depuis la rentrée, le gouvernement a décidé que l'enfant harceleur devait être exclu automatiquement de son établissement ?
Alors, c'est aussi une fausse bonne idée. Je sais bien que politiquement, c'est sûrement très rentable. Simplement, ça méconnaît le véritable problème du harcèlement. Le harceleur, c'est généralement quelqu'un de très populaire dans la classe qui a installé sa popularité. Imaginez ce qui se passe quand cette personne est évacuée de l'école et que vous, qui avez plus de difficultés à installer votre popularité, vous restez dans l'environnement. Les autres vont vous dire, ce que j'entends très souvent, toi on doit te subir, alors que lui on l'aimait bien, il a dû partir. Pour l'enfant qui reste en place, c'est terriblement difficile à vivre. En fait, ce qui s'est passé dans les décisions qui ont été prises, et je peux comprendre qu'elles aient été prises dans l'urgence, le problème c'est que ça ressemble à du football panique, on a été dans tous les sens, et certaines prises de position méconnaissent le phénomène du harcèlement dans toute sa complexité, et on ne réglera pas le problème, alors qu'on ait à sa disposition cette possibilité-là, ok, mais qu'on n'en fasse pas la solution. C'est de la même façon que les cours d'empathie, sans doute que c'est intéressant, mais il faut le faire en l'associant à des techniques.
Mais c'est pas unique.
Et à l'intérieur d'un cadre complet, vous savez ce qui explique qu'au Danemark, ils ont moins de soucis de harcèlement, c'est parce que l'empathie, elle est généralisée dans le développement des enfants. Vous savez, on a le même problème en Belgique qu'en France. Quand nos enfants reviennent de l'école, la première question qu'on leur pose, c'est ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la deuxième, c'est ça va, t'as bien travaillé ? Un papa danois ou une maman danoise. La question qu'ils vont poser quand l'enfant revient de l'école, c'est quelle belle question as-tu posée ? Parce qu'on va à l'école pour poser des questions, pas pour donner des réponses. Et qu'est-ce qu'ensemble vous avez réalisé ? Parce que l'ancrage communautaire, la classe, le fait de travailler tous ensemble, ça fait partie de la culture danoise et des cultures nordiques en général. L'intelligence collective est mieux valorisée dans ces pays-là.
Dans votre livre que je citais, vous terminez, je trouve ça très chouette, par un florilège de phrases à dire ou à ne pas dire à son enfant s'il est harcelé. Est-ce qu'on pourrait terminer ? Est-ce que vous pourriez nous en citer ? Alors, une phrase qu'il ne faut jamais dire à son enfant ou une phrase qu'il faut lui dire ?
Alors, ne jamais dire à son enfant, c'est à toi de t'en sortir par tes propres moyens. Et également, la tendance à dire, tu sais, moi quand j'étais à l'école, j'ai vécu ça aussi. sont deux phrases à éviter dans tous les cas de figure. Se mettre à la place de son enfant ne sert à rien, parce que si vous vous mettez à sa place, lui n'aura plus de place. Et donc, entendre sa souffrance émotionnelle. Et c'est vraiment important aussi, il y a des phrases qu'on dit, il y a des phrases qu'on dit à l'école, et il y a des phrases qu'on ne peut pas entendre de l'école. C'est vraiment important. Une école qui dit « on est démuni, on n'a pas de solution », ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible de tenir cette posture-là. Il y a des techniques, il y a des solutions. Là aussi, en Belgique, on a créé ce qu'on appelle un observatoire du harcèlement qui permet à tous les enseignants de disposer des différents outils qui existent, pas sous forme de livre, sous forme de fiche-outil de 3 pages pour dire « voilà, les techniques que vous allez pouvoir utiliser ». Ça, je pense que c'est vraiment aller dans la bonne direction parce que c'est important de ne pas laisser dire une phrase qui supposerait que face au cyberharcèlement ou au harcèlement, des adultes sont démunis. Quand ils entendent ça, il y a 2 éléments importants. Quand ils entendent « on est démunis », eh ben l'enfant désespéré rentre dans ce qu'on appelle la désespérance, parce que le désespoir, c'est « ça va m'arriver jusqu'à la fin de l'année », et la désespérance, c'est « même si j'en parle à des adultes, j'ai pas l'impression qu'ils savent ce qu'ils doivent faire ». Et le 2e élément qu'on doit absolument éviter, c'est une tension entre l'école et la famille. C'est vraiment important parce que dès que l'enfant perçoit cette tension, il se dit les adultes, ils vont mettre toute leur énergie à essayer de s'accorder, là, ils ne vont pas s'occuper de ce que je suis en train de vivre. Ouais. Et donc, c'est important de pouvoir aller à l'école en disant mon enfant souffre d'un point de vue émotionnel plutôt qu'utiliser le mot harcèlement, comme on l'a dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça se passe mieux? Il y a des outils, il y a des techniques, il faut que les parents se les approprient aussi, pas pour les mettre eux-mêmes en place, mais pour savoir que ça existe, pour qu'ils sachent que les enseignants ont des outils à leur disposition.
Merci infiniment, Bruno Imbeck. C'était passionnant. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le harcèlement scolaire, guide pour les parents, chez Odile Jacob. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, notre nouvel épisode de Galère sa mère, c'est tous les premiers samedis du mois. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Sa. Je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisise. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.